C'est le moment tant attendu de la chronique juridique de la semaine. Et je reçois donc notaire Marie-Josée Saint-Lafin. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Vous allez bien?
Absolument.
Parlez-nous du thème de la journée parce que c'est relativement complexe.
Oui, c'est complexe. C'est dans le ton, par contre. On parle de patrimoine familial et de régime matrimoniaux parce que plusieurs commencent à penser à se marier pour cet été. Mm-hmm. Donc, j'ai pensé faire cette chronique pour informer les gens que c'est important d'aller voir son notaire avant de se marier pour avoir ces informations-là. Aujourd'hui, on va en faire un résumé parce qu'on peut pas aller dans le détail de la situation de chacun parce que chaque situation est particulière. Mm-hmm. Et je vais tenter de vous résumer le tout pour que les gens puissent comprendre en quoi ça consiste de se marier. Donc, les conséquences juridiques du mariage. Si on a le temps, on parlera de la célébration comme telle d'un mariage civil. Sinon, on en discutera.
Voilà, on reportera à la semaine prochaine.
Exactement.
Exemple. OK. Alors, le patrimoine ou les régimes?
On va commencer par le patrimoine familial. Mm-hmm. Les gens doivent comprendre que lorsqu'on dit « oui, je le veux », il y a une bibitte que j'appelle, qui s'applique, qui s'appelle le patrimoine familial.
Oui.
C'est sûr que le patrimoine familial ne fait pas mal durant l'union. En fait, c'est lorsqu'il y a un divorce que tout ça s'applique. Donc, tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, ça n'a aucune incidence durant le mariage. C'est seulement s'il y a un divorce.
OK.
Il faut comprendre aussi que ce que je vais expliquer ne s'appliquera pas aux couples qui sont égaux dans le couple. Donc, des gens, parce que souvent, aujourd'hui, on est en 2012, quand on se marie, souvent, on a tout. On a déjà notre patrimoine, on a déjà la résidence, on a déjà, plein de trucs. Et à ce moment-là, et souvent, les gens, ils ont, l'homme et la femme, ont des revenus égaux. Alors, ce que je vais expliquer ne s'applique tout simplement pas à eux. On va le traiter quand même en cas de divorce, mais il n'y aura pas de conséquences puisque c'est le patrimoine familial et les régimes matrimoniaux sont là pour pallier à une inégalité au niveau des couples, au niveau de leur patrimoine.
Mm-hmm.
Donc, patrimoine familial, dès qu'on dit « oui, je le veux », c'est une institution dans le Code civil qui s'applique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte de réavantager le conjoint ou la conjointe défavorisée économiquement. Et là, je vais mettre un exemple concret qui fera peut-être pas l'affaire de tout le monde, mais ça, je le mets vraiment caricaturé au possible pour que ça soit évident. Alors, admettons qu'on a un couple qui veut se marier et l'homme a tout, donc lui a le gros salaire et la conjointe, elle est à la maison, s'occupe des enfants et elle n'a pas de revenus. Mmh. Alors, on va prendre la situation vraiment extrême. Et ils ont rien actuellement. Donc, le monsieur gagne l'argent, la dame gagne rien, mais ils n'ont pas acheté encore de maison et ils décident de se marier.
OK.
Donc, on dit « oui, je le veux » à ce moment-là. Patrimoine familial s'applique. Ça ne fonctionne plus. Patrimoine familial, on doit le régler. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un divorce dans cette situation-là? Mm-hmm. Bien évidemment, durant le mariage, les conjoints auront acheté une maison. Ben, en fait, l'homme aura acheté la maison. Ensuite, il aura acheté le véhicule pour la famille, donc un véhicule familial. Il aura accumulé des REER. Il aura acheté aussi tous les meublants. Il aura acheté aussi un chalet. Il fait des gros revenus, le monsieur, là.
Oui, oui.
Donc, un chalet avec aussi les meubles meublants, donc poêle frigidaire, laveuse sécheuse, etc.
Mmh.
Et il aura le véhicule automobile, je l'ai dit aussi.
Oui.
Donc, voilà. Alors, ça compose le patrimoine familial. Donc, s'il y avait un divorce, ce qu'on calculerait, parce qu'il faut s'entendre, le résultat du calcul du patrimoine familial au divorce, ce n'est qu'un calcul. L'homme garderait quand même la propriété de ses biens.
Okay.
Il ne devrait qu'une somme d'argent à la femme pour l'avantager économiquement suite au divorce, pour pas que la dame se ramasse dans la rue.
OK.
Alors, et c'est exactement pour cette situation-là que le patrimoine familial a été instauré.
Mm-hmm.
Parce que dans le temps, c'était souvent cette situation-là qui était là.
Oui. Est-ce que, par exemple, le bateau du monsieur... ces trucs-là entrent en ligne de compte?
Pas pour le patrimoine familial. Ça, on va y revenir au niveau du régime matrimonial.
D'accord.
Donc, le patrimoine familial, on regarde, dans mon exemple, ce que le monsieur a accumulé durant le mariage. Mm-hmm. Donc, il a accumulé une maison, il a accumulé un chalet, les meubles meublant ces immeubles-là, le véhicule pour la famille et les REER.
Mm-hmm.
Donc, on va calculer la valeur nette. La valeur nette, ça veut dire le montant que ça vaut au divorce, moins ce qui reste encore à payer dessus. Mmh. Et donc, ça fait la valeur nette. La dame, dans mon exemple, aura le droit de récupérer en argent la moitié de la valeur nette du patrimoine familial du conjoint.
OK.
Alors ça, c'est vraiment pour rétablir un équilibre pour que la dame ne se ramasse pas dans la rue avec rien suite au divorce. Vous me parliez de bateau. Oui. Alors, le régime matrimonial, ça vient régler l'autre chose. Et là, les époux ont un choix à faire. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir le notaire avant de se marier, parce que le choix doit être fait avant de se marier. Ah. Parce que le régime matrimonial, on a deux régimes matrimoniaux au Québec. Il y a la société d'acquêt, qui s'applique d'office si on n'a rien fait devant le notaire, ou la séparation de biens si on a fait un contrat de mariage devant le notaire.
OK.
Donc, je vous explique la différence entre les deux.
Oui.
Donc, si on choisit de se marier sans faire de contrat de mariage, on sera d'office marié sous le régime de la société d'acquêt.
D'office. OK.
Et c'est le même principe que le patrimoine familial, mais on va aller voir ce que monsieur, toujours dans le même exemple, ce que monsieur a accumulé durant le mariage, autre que les éléments dont on a parlé au niveau du patrimoine familial. Okay. Donc, oui, le bateau rentrerait là-dedans. Bien évidemment, le salaire, donc le compte en banque du monsieur va être pris en compte. Ensuite,
le Winnebago,
tout ce qui aura été, malgré que le Winnebago pourrait être considéré comme un véhicule utilisé pour la famille.
Oui.
Moi, je verrais plus la moto, le skidoo, le quatre roues et ainsi de suite.
Tous ces trucs-là.
Donc, toutes les bebelles, oui.
Ben, ça en sont.
Ben, c'est ça. Alors, donc, parce qu'on parle toujours du monsieur, dans mon exemple, la dame n'a rien. Alors, le monsieur a accumulé tout ça. Donc, le même principe va s'appliquer au niveau de la société d'acquêt, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul. Donc, valeur nette toujours. On va établir la valeur nette, donc le montant que ça vaut au divorce.
Oui.
C'est bien accumulé durant le mariage, moins ce qui reste encore à être payé. Et on va avoir la valeur nette. La dame a aussi, dans mon exemple, un droit de récupérer la moitié en valeur de ce que monsieur aura accumulé durant le mariage. Donc, la dame se retrouve au divorce avec deux créances. Une en vertu du patrimoine familial et une en vertu du régime matrimonial de la société d'acquêt.
Okay.
Et là, je fais une parenthèse. Souvent, les gens, ils disent « j'ai perdu ma maison dans le divorce ». C'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait, parce qu'on ne perd pas le droit de propriété dans nos biens. Dans mon exemple, le monsieur, là, il perdra pas sa maison. Il perdra rien de ça.
Il va en devoir une partie.
Mais il va devoir de l'argent.
Oui.
Quand on dit « j'ai perdu ma maison dans le divorce », c'est pas parce qu'on a perdu la maison parce que la maison est allée à la dame. C'est parce que l'homme n'avait pas l'argent pour payer la créance. Il a décidé de donner sa maison en paiement.
Oui,
c'est dans la modalité de paiement.
Okay.
Donc, c'est là qu'il faut être très pointu, parce que c'est pas vrai qu'on perd notre propriété, nos droits de propriété dans les biens qu'on possède au divorce.
OK.
Simplement, oui, ça va être le cas si on n'a pas autre chose à offrir. Donc, si on n'a pas de quoi payer, on devra nécessairement soit vendre la propriété et avoir de l'argent ou de donner tout simplement la propriété d'un immeuble ou d'autres biens à la conjointe en paiement. Et là, on est dans la modalité de paiement, on est dans le droit civil pur et simple.
Okay.
Ça, c'était le premier item sur lequel on a un choix. Le choix est entre la société d'acquêt, ce que je viens d'expliquer, et la séparation de biens. La séparation
de biens... Ce choix-là, Marie-Josée, doit être fait avant, là.
Il est fait avant, parce que si on ne fait pas le choix avant... en fait, c'est parce qu'on peut toujours modifier le régime matrimonial après le mariage, mais c'est beaucoup de sous et de coûts, parce qu'on doit le régler, là. On doit quand même régler ce que je viens de dire. Le calcul s'appliquerait quand même. Donc,
mieux vaut le faire avant.
Bien, absolument.
OK.
Donc, la séparation de biens, si on décide de choisir ce régime-là, on doit nécessairement aller devant un notaire, faire un contrat de mariage. La séparation de biens, ça vient simplement dire qu'on ne veut pas avoir, dans mon cas, là, la petite madame ne veut tout simplement pas avoir ce droit de créance-là.
Okay.
On abandonne notre droit de créance.
Okay.
Ça veut dire que les conjoints retournent chacun avec leur petit bonheur et il n'y a pas de droit de créance qui existe à ce niveau-là. Donc, le monsieur peut garder tout son argent en banque et la dame dit non, moi, je ne veux pas avoir ça. Donc, chacun repart avec ses trucs et il n'y a pas de droit de créance qui
Mais on doit voir ça assez rarement.
On voit ça, non, en fait, on voit ça lorsque les époux sont économiquement égaux. Ah. Si il gagne le même montant d'argent ou à peu près,
ouais.
et que ils disent ben ça donne absolument rien de toute façon. Et par contre, l'autre cas où on le voit aussi, c'est si justement le conjoint qui est quand même à l'aise financièrement, mais qui veut pas nécessairement aller jouer dans le compte en banque de son conjoint ou de sa conjointe, parce qu'il y en a assez pour vivre maintenant, il est autonome financièrement ou elle est autonome financièrement, puis la personne dit « mais moi non, j'en veux pas plus que ce que j'ai là, si on se divorçait, je suis capable de m'occuper de moi-même toute seule. »
OK.
Donc à ce moment-là, on abandonne notre droit de créance contre le conjoint et chacun repart avec ses affaires.
Et ça, c'est la séparation de biens.
Et ça, c'est la séparation de biens. Là, j'ai fait un résumé assez succinct. Je veux juste revenir aussi sur quand on calcule la valeur nette, soit des acquis, hein, quand on parle de la société d'acquis, ce sont les acquis, ou le patrimoine familial. Dans la valeur nette, on doit aussi diminuer les valeurs qui viendront de la vente d'un bien qu'on a acquis avant le mariage. Parce que ça se peut que quand on se marie, on a déjà une maison, on la vend durant le mariage et on s'en achète une autre.
Ouais.
Bon, là, ça veut dire qu'on a vendu un bien dont on avait la possession avant le mariage, ce qui est un bien propre. Et là, quand on vend celui-là et qu'avec cet même argent, on achète un bien durant le mariage qui tombe dans le patrimoine familial, ben, faut pas pénaliser la personne qui était propriétaire avant. Uh-huh. Donc, on doit aussi diminuer le montant provenant de la vente d'un bien propre avant le mariage. Parce que sinon, ça serait pas équitable.
Oui.
Et voilà. Donc, ce sont les petites particularités au niveau des régimes matrimoniaux. C'est sûr que c'est un résumé.
Oui, mais il y a un très beau petit dépliant que j'ai et qu'on peut avoir chez toi, je pense.
Absolument.
Il nous reste un peu de temps, Marie-Josée. J'aimerais ça que tu répondes à cette question-ci parce que je suis persuadé qu'il y en a une foule qui nous entendent et qui disent « Oui, mais Gilles, demande-y. Suppose qu'il n'y en a pas du tout d'entente. » Tu sais, est-ce qu'on peut employer l'expression « conjoint de fait » ou « il arrive quoi? »
OK. Les conjoints de fait ne sont pas des conjoints au sens du Code civil. Le Code civil, c'est la seule loi qui ne reconnaît pas les conjoints de fait.
OK.
Donc, nécessairement, il faut faire des documents comme le testament pour régler le cas du décès. Oui, on peut faire des conventions d'union de fait qui va déterminer les droits de propriété dans les biens, exemple. Parce que quand on est en conjoint de fait, en union de fait, c'est pas évident de déterminer qui a quoi. Bon, des fois, on perd les factures et tout ça, puis on sait plus qui a acheté quoi. Donc là, c'est là qu'on fait, on se dit, ben OK, si on se sépare, ben moi, je repars avec ça, toi, tu repars avec ça.
Est-ce que j'ai avantage quand même à rencontrer un notaire, puis établir des choses qui sont un peu plus que sur le bout de la table?
Oui. Bien, c'est sûr que nous, on n'ira pas chez les gens pour compter leur bobette, là.
Non, okay? non.
Mais on peut les accompagner pour leur dire comment faire un genre d'inventaire.
Ouais.
On peut même le déposer dans nos minutes pour qu'il soit à l'épreuve du feu et du vol.
Ouais.
Donc, l'existence soit consignée chez le notaire. Uh-huh. Ça, c'est des choses qu'on peut faire.
Okay.
Mais effectivement, le notaire est là pour accompagner. Le notaire est le professionnel qui est là pour protéger le patrimoine des gens.
Mmh.
Donc, quand on parle de patrimoine, il faut nécessairement penser au notaire et allez-y voir le notaire, poser des questions. Et chaque situation est particulière. Moi, quand les gens viennent me voir, c'est sûr que je dois leur poser des questions. Bon, qu'est-ce que vous avez actuellement? Qu'est-ce que vous possédez?
Oui.
Pour voir c'est quoi les conséquences particulières pour leur situation particulière.
Oui.
Parce que vraiment, chaque cas est particulier.
OK. Dans le cas du patrimoine lui-même, là, on le définit avec son notaire aussi, ça?
Non, le patrimoine familial, c'est une instauration. Le Code civil a instauré ça en 91. Ceux qui étaient déjà mariés pouvaient se soustraire à cette application-là parce qu'ils étaient déjà mariés.
Oui, je me
Donc,
rappelle,
les gens avaient un an pour se soustraire à l'application du patrimoine familial.
Mm-hmm.
Mais qu'on aille voir le notaire ou pas, si on se marie, le patrimoine familial va s'appliquer, mais il n'y a aucune incidence au niveau durant l'union, comme je l'ai expliqué. Ça va être par la suite qu'il va y avoir une incidence. Mais effectivement, c'est préférable de savoir dans quoi on s'embarque de toute façon.
Ben,
oui, on aime ça, on veut se marier, puis c'est le fun, puis c'est un événement heureux, le mariage. Mais il y a quand même des conséquences économiques au mariage. Et moi, je pense que c'est important de le savoir avant de se marier. Pas qu'on va décider de ne pas se marier, mais au moins de se marier en toute connaissance de cause.
Oui, convenable. Avec la loi, en conformité avec la loi.
Exactement.
Marie-Josée Saint-Laurent, tu avais tout à fait raison. Il faut reporter à la prochaine chronique l'autre partie, la célébration elle-même et puis tout ça. Mais ça a été fort édifiant et je suis persuadée qu'on a répondu à bien des questions que les gens se posaient dans la cuisine.
Oui.
Alors, ben, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne journée.
Une bonne journée à vous.